pressure, yo, the pressure, yeah, the pressure is the pressure, 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 yo, the pressure, yeah, the pressure is.
Il est 19h sur le 100.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le chat, onglet Parlez-nous en direct sur le site. Ce soir, on va parler de classiques, de Dans mon street, de poésie et d'autres trucs. Mais tout d'abord, générique. Alors, on va refaire le générique. Hop.
Important. C'est capital. C'est pas.
On est reparti pour le générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes là-bas!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va projeter directement dans votre cerveau les plus belles images du comics, du manga et de la BD franco-belge. Alors un studio qui est bien tristoun ce soir, je suis bien tout seul, parce que c'est la dernière émission de la saison. Luc s'en est allé vers d'autres contrées. Attendez, je vous rassure, il va bien, hein. C'est juste qu'il a fini toutes ses chroniques et malheureusement il ne pouvait pas nous faire une dernière chronique comme on avait voulu l'exiger de lui. Et puis, mes deux affreux bambins sont malheureusement malades, ou heureusement, hein, c'est vous qui me direz. Donc je me retrouve tout seul pour cette dernière émission de la saison dans le studio. Donc n'hésitez pas à aller sur le chat pour échanger avec moi si vous voulez. Ça va rompre un petit peu la monotonie de cette émission. Donc il y aura probablement un peu plus de musique que d'habitude, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. On va commencer du coup avec un truc pour les petits enfants. Enfin pour les petits enfants, non. Pour les enfants, oui. Mais aussi pour les adultes, avec Le Voyage d'Ours Lune de O. Et c'est publié aux éditions Le Renard Doré. Alors Le Renard Doré, c'est une collection de Rue de Sèvres. C'est une collection, je vous cite comment ils la vendent, c'est la collection pour émerveiller les enfants et ravir les plus grands. Alors, je ne connaissais pas cette collection, je l'ai découverte avec ce livre, Le Voyage d'Ours Lune, et je vais d'abord vous parler un petit peu de la maquette. C'est un manga qui a une couverture qui est plutôt texturée, plutôt sympathique, une couverture à rabat, et puis plus rigide que les couvertures qu'on peut trouver sur la plupart des mangas. On a vraiment sur quelque chose d'assez quali. Et puis, si vous aimez bien en fait l'intérieur, regardez ce qu'il y a sous les jaquettes des mangas. C'est autorisé, ça, vous avez le droit. Eh ben, il y a plein de petites choses. Il y a deux belles illustrations qui donnent vraiment le ton de ce qu'on va pouvoir avoir à l'intérieur. Mais alors, de quoi ça parle Le Voyage d'Ours Lune? Eh bien, c'est surtout, quand je l'ai lu, donc c'est une histoire complète, hein, c'est un tome unique, hein, et quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à un conte. Ça me fait penser à une histoire qu'aurait pu être racontée par notre ami Jean de La Fontaine. Coucou Richard, qui écoute depuis la maison et qui j'espère que vous allez bien aller de bonne santé. J'ai pensé à une fable de La Fontaine en fait avec Le Voyage d'Ours Lune. puisque c'est l'histoire d'une corneille qui fait un cauchemar et dans lequel elle voit une lune qui lui parle. Et alors qu'elle fait ce cauchemar, elle se réveille et elle va découvrir qu'elle se trouve à côté d'un ours dont la toison au niveau du poitrail fait une sorte de croissant de lune. Ils vont échanger un petit peu sur qui ils sont, ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là. Et puis très vite, on va se rendre compte que l'un comme l'autre, ils sont un petit peu perdus. Ours Lune, hein, cet ours qui est baptisé comme ça, n'a jamais vu d'autre que ses semblables. Il ne sait pas vraiment ce qu'il fait là. Et ils vont partir en voyage à travers les montagnes, à travers toutes les tous les paysages en fait, pour essayer de comprendre pourquoi Ours Lune est tout seul, où sont passés les autres ours. Et l'enquête est un petit peu plus complexe puisque on nous dit qu'il n'y a jamais eu d'autres ours dans ces montagnes-là. Et leurs pérégrinations vont aller un petit peu plus loin. Et on se prend à voyager avec ces deux protagonistes qui vont rencontrer d'autres personnes au passage. Et c'est tout doux, c'est tout agréable. Le dessin fonctionne bien de la même manière. Ça nous renvoie à quelque chose de doux, d'agréable, de rond. Ça m'a un petit peu fait penser à Gon. Je ne sais pas si vous connaissez Gon, c'est l'histoire d'un dinosaure en fait perdu dans une forêt et qui va imposer ses désirs aux autres, quitte à leur mettre des coups de tête. Et ben on a un peu ces pérégrinations de personnages animaux qui discutent, qui dissertent entre eux. Et qui vont parler d'écologie, parler de nature, parler de faune, de flore, et surtout presque de philosophie. Donc c'est très joli, c'est très mignon, ça va forcément marcher si vous lisez ça à vos enfants le soir avant d'aller se coucher, mais ça va aussi marcher pour vous, adultes, si vous avez gardé cette facilité à vous émerveiller et à vous promener dans la nature, et à vous contenter de petits bonheurs qu'on peut trouver simplement en échangeant avec des personnes qui ont un avis peut-être un peu différent d'une autre, mais qui est toujours hyper agréable, parce que ça reste un échange. Voilà, donc n'hésitez pas, avec Le Voyage d'Ours Lune, c'est de O, H-O, hein, c'est le nom de l'auteur, c'est publié aux éditions Le Renard Doré, je sais pas si c'est une nouvelle maison d'édition ou c'est plutôt une collection des éditions Rue de Sèvres. En tout cas, il y a trois titres actuellement qui sont mis en avant. On a La Forêt Magique de Oshigahara, et puis on a Ma Mamie Adorée, ainsi que Le Voyage d'Ours Lune, voilc. Et n'hésitez pas, c'est vraiment très sympa, c'est vraiment très cool, et puis ce sera un manga à partager avec vos enfants ou à garder pour vous si vous êtes une âme d'enfant. De quoi je peux vous parler ensuite? J'ai d'autres choses pour les enfants, mais pas complètement. On va partir avec avec Petit Dieu de Mathieu Salvia et Christelle aux éditions d'Argo. C'est le tome 1, ça s'appelle Le Dragon Blanc. Alors c'est jeunesse sans être jeunesse. Ça commence comme un conte. Je vais vous lire le dos, parce que ça résume bien l'histoire. Certaines histoires sont spéciales. Celle-ci en fait partie. Elle parle d'un rat et d'une fée sur le point de disparaître. D'un raton laveur au grand cœur, et d'une guerrière prête à tout pour sauver le monde. Elle parle de faim et de ce qui vient ensuite, lorsque tout s'arrête. Alors pourquoi ça résume bien cet album? Déjà parce qu'on nous présente tous les personnages qui vont interagir ensemble. Des personnages qui ne sont pas forcément tous d'accord entre eux. Des personnages qui parfois vont s'opposer, mais qui ont un but global, celui de sauver leur monde d'une destruction. Puisqu'un dragon blanc, non, pas un dragon blanc aux yeux bleus, Richard, un dragon blanc qui dévore leur monde. Et ils ne savent pas comment l'arrêter. Il a l'air indestructible. Et beaucoup de gens disparaissent quand ce dragon blanc a mangé les morceaux de leur monde. Et ensemble, nos héros vont décider d'aller trouver la déesse qui va pouvoir l'un lui donner une arme, l'autre lui donner une réponse, peut-être une solution pour lutter contre ce dragon blanc. Et on va les suivre dans leur pérégrination jusqu'à cette déesse. Mais il y a un petit twist, je ne vais pas vous le raconter. Les plus avisés d'entre vous auront sans doute imaginé ce petit twist. Mais ça marche très bien. C'est une histoire qui est plus fine que ce qu'on imaginerait au départ. C'est pas un simple récit d'aventure épique, de fantaisie. Tout de suite, on s'attache aux personnages. Ils sont suffisamment caractérisés pour qu'on ait une envie de partager avec eux des aventures, envie de comprendre ce qui va leur arriver, et puis de les défendre aussi. Et c'est ça qui est le plus important, à mon avis, dans cet album. C'est cette capacité à tout de suite immerger le lecteur dans l'ouvrage. Parce que oui, c'est un des éléments importants de ce récit. Et puis si on parle rapidement, ou même pas, on va prendre le temps, hein, de parler du dessin de Christelle. Si vous connaissez pas son dessin, c'est un dessin qui marche ultra bien. Il y a des teintes de couleurs qu'on retrouve souvent, des bleus assez foncés, avec des blancs qui contrastent très fortement. Il y a un dessin avec... c'est pas rond, c'est anguleux, mais il y a un côté cartoon un petit peu qui vient. On a presque l'impression d'avoir un dessin animé qui sort, tellement on est capable de voir ce qui se passe entre les cases. C'est toujours en fait l'apanage d'une bonne BD, c'est de savoir en fait si on a besoin de se poser la question de ce qui se passe entre deux cases. En général, c'est que la BD, il y a un problème de construction. Avec Christelle, on n'a jamais ce problème-là. Ça roule tout seul et on peut assez facilement s'imaginer ce qui se passe entre les cases. Et puis elle a une façon de traiter la lumière qui marche très très bien, et ça se voit d'autant plus quand on a des personnages qui sont autour d'un feu de camp à discuter. On a des émotions qui passent sur les visages et qui sont renforcées par ces effets de lumière. Et Christelle, dans tous ses albums, en fait, j'ai retrouvé ces éléments-là. Et là, ça marche peut-être encore un petit peu plus parce qu'on est vraiment dans l'histoire d'un conte et un peu plus. Je vais pas vous raconter tout ça, je vais pas vous divulgâcher l'ouvrage, mais n'hésitez vraiment pas. C'est un tome 1, j'espère qu'il y en aura plein. Alors pas trop hein, quand même, parce que je souhaite beaucoup de succès à cette série parce que ça marche bien, c'est très beau. C'est très intéressant, c'est plus intelligent que ce qu'on pourrait imaginer dans un simple conte. On a plein d'indices très tôt dans l'histoire sur ce que ça veut nous raconter. Et je veux, chers auditeurs, que vous lisiez cet album. Peut-être un peu plus que n'importe lequel de ceux que je vais vous présenter ce soir. Voilà, c'est Petit Dieu, c'est le tome 1, Le Dragon Blanc. C'est publié chez Dargaud et c'est de Mathieu Salvia et Christelle. Je vous propose à 19h15 de faire une petite pause musicale. On va se décrasser un peu les esgourdes avec un titre assez simple, assez drôle et efficace, avec le dernier titre d'Ultra Vomit, La Puissance du Pouvoir.
lorsque l'ultime note de métal s'évanouit. Lorsque tu crois que tout est fini. Oh! Quand tous les projecteurs s'éteignent et que la salle sombre dans le noir, sache qu'il y a toujours.
Puissance. Allez, vous êtes toujours sur le 101.5 de Radio G. C'était la puissance du pouvoir ou le pouvoir de la puissance. Le dernier titre d'Ultra Vomit. Si vous êtes de retour d'Ulfest, ils y étaient peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi la programmation parce que je pouvais pas y aller. Alors du coup, voilà, j'allais pas m'embêter. Bref, vous êtes de retour dans la case, c'est bon, on va parler toujours de 9e art. On va parler, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram principalement et Facebook, n'hésitez pas d'ailleurs à liker, partager, vous abonner, c'est super intéressant parce que je parle de choses dont je parle dans l'émission, mais pas tout à fait pareil et pas tout à fait tout le temps. Parce que des fois je parle des choses dans l'émission que je ne parle pas sur Instagram et il y a des choses dont je parle sur Instagram dont je ne parle pas toujours dans l'émission, donc c'est complémentaire. Voilà, n'hésitez pas. Je vais vous parler encore d'un album plutôt jeunesse, même si peut-être un petit peu plus de tout, parce que il y a des passages un peu durs. Je vais vous parler de Robis, d'Irène Marchesini et de Carlotta Di Cataldo, publié aux éditions Le Lombard. L'histoire est assez simple. On est au Moyen-Âge. On suit le procès de deux sorcières qui vont être brûlées vives. Et en parallèle, on suit l'accouchement d'un jeune enfant. Enfin, l'accouchement d'une jeune femme qui accouche d'un jeune enfant. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et cet enfant qui vient de naître, il a une particularité, c'est qu'il est albinos. Et cet enfant va s'appeler Martino. La maman décide de garder cet enfant contre l'avis du père. Alors imaginez qu'au Moyen-Âge, naître albinos, c'était un petit peu compliqué. Hein. Je sais que dans certains pays, on peut démembrer des albinos parce que ça porte bonheur d'en avoir un petit bout. Hein. Donc on n'était pas très très loin de ça au Moyen-Âge en Europe. Hein. Et bah, malgré le fait que la maman l'ait gardé en grandissant, ce petit Martino, on va quand même l'accuser de tous les maux, de tous les problèmes. Jusqu'à ce que le papa décide d'envoyer le jeune garçon chez un oncle. Sauf que le jeune garçon, hormis son grand frère avec qui il a du mal en fait à passer du temps et à s'apprécier, sa grande sœur, ses autres sœurs, il s'entend très bien avec. Mais voilà, faudrait qu'il puisse Je sais pas comment dire en fait. Et du coup, il apprend ça par inadvertance, qu'il va se faire envoyer chez son oncle, et il décide de fuir. Fuir à travers la forêt. La forêt là où il se sent bien, hein, puisque il essaie d'élever des larves. Larves qui lui sont enlevées par des petits bullies qui viennent lui pourrir un peu la vie. Et puis, alors qu'il est parti dans cette forêt, il va tomber sur une femme. Une grande femme, aux cheveux sombres, avec des plumes dans les yeux, au teint mat, et sur lequel dont le visage semble avoir gardé les traces sombres de larmes. Elle a aussi une main qui est très sombre. Elle est brune, hein, ça y a pas de problème, elle a la peau mate, mais il y a une couleur, peut-être de cendre. Et à discuter avec cette jeune femme, qui va choisir de le garder sous son aile, il va se rendre compte que c'est une sorcière. Et le petit Martino va avoir aussi envie de devenir une sorcière. Et ça parle de plein de choses, cet ouvrage. Ça parle du fait d'être refoulé par sa propre apparence, de se mettre en question aussi sur sa propre apparence, sur ce qu'on est, soi, puisque au fur et à mesure du temps, à force de côtoyer cette femme, le petit Martino va mettre une robe, va se trouver à l'aise dans cette robe, et sans forcément qu'il décide de devenir une femme, il va adopter des vêtements féminins. Peut-être parce qu'il n'a que ça, mais aussi parce qu'il se sent à l'aise dedans et que ça lui convient très bien. Et c'est super intéressant parce que on porte pas de jugement sur nous en tant que lecteurs sur ce jeune garçon qui découvre d'autres choses que ce qu'on a pu lui présenter dans sa famille. Et puis en plus, c'est des sujets qui marchent bien. C'est des sujets, on en parlera tout à l'heure avec un autre album qui parle aussi de sorcellerie et de comment ont pu être perçues les sorcières sur cette période-là. Mais c'est un très très bon sujet. Et puis l'ouvrage qui est quand même assez conséquent, alors j'ai pas regardé le nombre de pages, je devrais le faire systématiquement, doit être sur un peu plus de... Ouais, on est sur à peu près 200 pages, 180, 190 je pense. C'est très beau. C'est doux, c'est tendre. Je pense que c'est du travail en numérique. J'ai aucune certitude avec ça. Tant que je ne suis pas, j'ai tendance à pas me prononcer là-dessus parce que du coup, tant que je suis pas dans le bureau à voir comment fonctionnaient les auteurs, c'est un petit peu dur. Mais c'est très beau, c'est très doux, c'est très tendre. Il y a plein de petits moments simples de bonheur. Il y a des cases, là je suis tombé dessus au hasard, c'est un découpage quatre bandes, et c'est simplement Martino qui fait de la balançoire avec ses sœurs qui sont derrière à l'entourer, à danser et à le pousser sur la balançoire. C'est tout simple, mais c'est une case qui respire tellement du bonheur dont semble avoir été privé Martino pendant tellement longtemps que c'est top. Alors bien sûr, c'est un ouvrage qui est un petit peu doux amer, puisque il y a plein de moments durs, il y a plein de moments on commence par nous parler de quand même de personnes qui vont mourir immolées par le feu, on nous parle de gens qui sont rejetés, mais c'est contrebalancé tout le temps par des petits moments qui sont super agréables, super sympathiques, et c'est trop trop beau. Donc voilà. Je vois pas quoi dire de plus, à part que c'est un ouvrage qui est vraiment très sympa, qui fait réfléchir sur plein de choses, et ça marche super bien. Donc faut pas hésiter à aller se chercher cet ouvrage et puis à se poser dessus. C'est vraiment top. Donc voilà. Ça s'appelle Robis. C'est publié aux éditions Le Lombard. C'est de Irène Marchesini. Ou Marchesini, je suis nul en italien, et de Carlotta Di Cataldo. Donc, encore une pépite, un vrai moment que j'ai. Je vous conseille vraiment ça parce que c'est vraiment très très bien. On va rester sur la thématique sorcellerie. Là, on va partir sur un truc un peu plus adulte, un peu plus historique, avec un album qui a été publié aux éditions Les Arènes BD, qui s'appelle L'Imprimerie du Diable. C'est de Virginie Greiner, je pense que je le prononce bien, et d'Annabelle. Déjà, je voudrais vous parler, et ça c'est un truc qui m'a pas choqué, mais qui m'a hyper attiré sur cet ouvrage, c'est qu'il a une couverture qui est somptueuse. Imaginez deux personnages, un homme, une femme. L'homme tient contre lui un livre, la femme tient contre elle des herbes. Au centre, un tableau d'imprimeur, une presse imprimée, pardon, à l'ancienne. Et pour les relier de l'un à l'autre, vous avez une banderole de livres ouverts, fermés, de parchemins. L'ouvrage est sur un fond bleu et beaucoup de choses sur cet ouvrage sont dorées ou en relief doré. Donc déjà, c'est super classe, mais en plus, c'est un ouvrage qui a une espèce de toucher velours qui rend le contact du bouquin hyper agréable. C'est un, je passerai mon temps à passer mes doigts dessus parce que le contact de cet ouvrage est tellement agréable que je le dis, hein, Les Arènes BD, si vous voulez nous refaire des bouquins comme ça tout le temps, faites, je vous achète tous, hein, il n'y a pas de problème. C'est vraiment hyper agréable à toucher. Donc voilà, faut pas hésiter. Déjà, voilà. Donc j'espère que cette description là vous a donné envie, parce que ça va parler à la fois d'amour, de haine, d'imprimerie, donc un peu d'histoire, et de sorcellerie. L'histoire, c'est simple, c'est celle d'un village dans lequel on va avoir deux personnages. Reine Percheval, une jeune fille qui est au service d'une femme qui est qu'on appelle la mère, et qui est en quelque sorte la soigneuse du village. Et puis on a, je crois qu'il s'appelle Étienne, je voudrais pas dire de bêtises, Étienne Trollet, c'est ça, qui est un jeune garçon qui devrait travailler à la ferme pour accompagner son père, mais ça l'ennuie beaucoup. Lui, ce qu'il préfère, c'est s'instruire grâce au prêtre du village. Prêtre qui lui a appris à lire. Et parce qu'il a appris à lire, il va fuir son village pour aller dans une grande ville et essayer de mettre en avant le fait qu'il sait lire et qu'il est capable de faire beaucoup de choses grâce à ça. Et bien lui en face, parce qu'il sait lire, il va être embauché dans une imprimerie. Et au contact de cette imprimerie, il va grandir, apprendre à lire un peu plus, mettre en avant plein de choses, jusqu'à devenir l'homme de référence d'un ouvrage qui vient de sortir, le Malleus Maleficarum. Alors, si vous ne connaissez pas cet ouvrage, qui est un vrai ouvrage, c'est celui qui a été surnommé le marteau des sorcières. En gros, le Malleus Maleficarum, c'est un ouvrage qui a été créé dans le but de donner des consignes à l'Inquisition ou à toute personne susceptible de croiser une sorcière. C'est un manuel sur comment la reconnaître et comment lui faire avouer ses péchés. C'est l'ouvrage qui, en Europe, va remettre en avant la grande chasse aux sorcières. Alors, vous vous doutez bien que ce n'est pas que ça. C'est aussi un ouvrage qui était politique, puisqu'à partir du moment où on avait des femmes dépositaires d'un ancien savoir, eh ben, ça commençait à poser problème un peu partout, dans le clergé, dans la bourgeoisie, où c'était principalement les hommes qui exerçait des rôles de pouvoir. Donc c'est hyper intéressant de voir comment un homme issu du peuple va, par son instruction, petit à petit s'en éloigner et s'éloigner aussi des traditions. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est lorsque l'Inquisition c'est lorsque les gens vont commencer à s'intéresser à son village natal et à la jeune femme qui utilise des médicaments, enfin des herbes et différents rituels pour soigner les gens, que cela va poser un problème, que ça va le rappeler à sa promesse, celle qu'il avait faite à Rennes, Percheval, celle même qui est incriminée pour sorcellerie. Et là, je ne vais pas vous raconter plus tard, parce que c'est aussi le but, c'est que vous puissiez découvrir cet ouvrage, mais c'est hyper intéressant de se rendre compte à quel point l'instruction peut poser des problèmes sur cette présentation de ce qu'on pourra appeler, nous, des traditions. Et qui, selon l'ouvrage dans lequel elles sont exposées, n'ont pas forcément non plus la même compréhension. Si on vous met un petit rituel magique dans une Bible ou dans un Malleus Maleficarum, ben, l'impact il n'est pas tout à fait le même. Donc voilà pour l'histoire, qui est une histoire qui est hyper intéressante. C'est un peu dense, hein, je préfère préciser, parce que du coup, il y a quand même de l'histoire, et puis on est sur un ouvrage qui est quand même assez dense aussi, on est sur plus de 140 pages, et avec quand même pas mal de textes. Et je me rends compte que je vous ai pas parlé du dessin. Alors le dessin, je veux pas dire qu'on est sur un dessin classique, mais on est sur un dessin où l'histoire marche bien. Il y a beaucoup de détails. On est sur un dessin qui va pas vous surprendre dans cet ouvrage, mais qui est tout à fait efficace dans l'art de raconter une histoire. On a des personnages qui vont évoluer dans des décors. On est vraiment perdu en plein Moyen-Âge. On a des ambiances qui vont nous montrer comment les gens vivaient un petit peu. On a vraiment cette immersion. Et puis, ce contraste sur les costumes, les personnages qui existaient à l'époque. Parce qu'on voit des bourgeois avec des costumes bien travaillés. Et puis, le petit vieux qui était complètement perdu dans sa cambrousse avec des guenilles sur lui, complètement dégueulasse. Et il y a une mise en scène qui est bien posée. Ça marche très très bien. Donc, on apprend des choses. On perd pas de temps parce que ça se lit très facilement. Ça demande, enfin, ça se lit très facilement. Oui, mais ça demande quand même un petit peu d'investissement parce que y a beaucoup de textes. Mais voilà, si vous connaissez des gens qui aiment les livres ou qui s'intéressent à la sorcellerie ou à l'évolution du sort qu'on a pu réserver aux femmes pendant cette période-là, ça c'est tout à fait l'ouvrage qu'il faut. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous en reparle tout de suite avec les références, ça s'appelle L'imprimerie du diable, c'est publié aux éditions Les Arènes BD, c'est de Virginie Greiner et Annabelle, et c'est vachement bien. Voilà, c'était la petite parenthèse sorcellerie avec ces deux albums. On va se refaire une petite pause musicale avec un petit truc assez simple, on parlait de sorcières. En anglais c'est witch et je me rends compte que j'ai fait des bêtises parce que wish et witch ça se ressemble, mais on va partir avec Wishmaster de Nightwish. Oula, ça a aucun rapport avec les sorcières, mais ça me fait plaisir, c'est un bon vieux classique. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
Radio G 101.5 FM.
Et vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G dans la case de Seb. On a été faire un tour du côté de la sorcellerie. On va faire un tour du côté du Nawak. Allez. Mais du bon Nawak, hein. Parce que, voilà, il y a plein de Nawak. Je vais vous parler d'un truc bizarre. Non mais, pour de vrai, hein. Qui s'appelle Phase Finale. C'est publié aux éditions du Lombard. Ça s'appelle, c'est le tome 1 d'Desmodus Sapiens. Et c'est Del Diablo et de Bodhi. Est-ce qu'ils ont plus de noms, ces gens-là? El Diablo et Bodhi. Non, bon. Et Bodhi, pardon. Alors, comment vous résumez ça? Eh ben, c'est un petit peu particulier. Vous prenez des gens, vous prenez des théories conspirationnistes, là, des trucs, vous mettez un peu de fantasy, enfin pas de fantasy, un peu de classique, de monstres de littérature, vous secouez bien fort, et vous avez Phase Finale. Voilà. Vous n'avez pas compris? Bon, alors attendez, je vous fais un résumé. Imaginez un monde dans lequel la pollution est très importante, on a un niveau technologique qui est un peu plus poussé, et on va suivre un journaliste youtubeur qui va aller interviewer un complotiste qui explique qu'en fait, le monde, s'il est pollué, c'est parce qu'on a des extraterrestres champignons qui ont dénaturé notre air, notre oxygène, en s'incrustant chez les puissants, pour pouvoir un jour, en fait, champiformer, je sais pas comment le dire, notre planète pour qu'elle devienne vivable pour eux. Voilà. Bah, vous trouvez que c'était simple jusque-là? Et ben, rajoutez là-dessus une vampire qui se serait fait détruire son château par les mêmes extraterrestres quelques 800 ans plus tôt. Et vous avez un trio de barjots qui vont quand même tenter de sauver le monde. Parce que oui, c'est un peu ça le but, quand même. C'est que les trois, là, ils ont raison. On a vraiment des vampires, on a vraiment des champignons extraterrestres, on a vraiment un youtubeur qui est en train de devenir un vampire, hein, du coup, parce qu'il s'est fait boulotter. Et il faut sauver le monde. Et il y a que eux qui peuvent résister à ça. Et c'est complètement barjot. Mais c'est complètement barjot parce que c'est complètement assumé. Et c'est ça que je trouve dingue, en fait, c'est que des fois, on a des ouvrages... le postulat de base, vous le lisez et vous faites non, c'est trop n'importe quoi et ça ne marchera jamais. Et ben au contraire, poussez le curseur toujours un petit peu plus loin dans le n'importe quoi et dans l'assumer, hein, parce qu'il faut juste assumer son postulat et vous avez un truc qui marche. Il y a plein d'actions. Il y a plein de scènes what the fuck, il y a plein de références à des théories conspi un peu partout. Moi je trouve ça drôle parce qu'il y a un côté très décalé avec ce full conspirationniste qui vit dans son bunker et compagnie et que personne ne doit voir, personne ne doit savoir où est son bunker parce que sinon c'est la fin du monde. Et ben ça marche trop bien. C'est je vois pas comment dire. Ça marche comme une série B où on sait que les ficelles sont grosses, mais que c'est pas grave, c'est drôle quand même et ça nous plaît. Et ça marche très bien. Et graphiquement, c'est à l'avenant, hein. On a un dessin qui est complètement décomplexé. Dès qu'il doit y avoir des explosions, les explosions sont complètement démesurées. Les scènes d'action sont plutôt dingues. Ça marche très très bien. C'est très efficace. On a un dessin qui a tendance quand même à tirer un peu vers le comics, pas dans le côté très très anguleux de certains comics, mais dans la conception des personnages, on n'est pas sur, selon moi, de la BD classique, et ça marche bien. Vraiment, les trois personnages sont tout aussi caricaturaux les uns que les autres, les trois personnages principaux, mais on les apprécie pour ça, en fait. Ils sont très facilement identifiables. On a la vampire bourgeoise, on a le gros complotiste, et puis le petit nerd qui veut faire ses reportages et qui est complètement névrosé de tout. Mais pourquoi m'en dire plus? Parce qu'on peut pousser des fois le curseur un peu plus loin, mais peut-être qu'on aura le curseur un peu plus loin dans la suite. puisque là c'est un tome 1, hein, mais c'est cool. Moi, j'avoue, faites-moi en plus que ça, et puis j'irai même plus. Si un jour vous avez l'opportunité de porter ça à l'écran, mais je pense que je serai le premier téléspectateur à regarder ça et à me marrer, à savoir pourquoi je me marre, mais je me moquerai pas parce que le scénar est complètement what the fuck, mais parce que je sais que le scénar est what the fuck et complètement assumé. Voilà, je vois pas quoi dire de plus. C'est juste assez dingue comme truc. Donc, allez-y. Faites-vous plaisir, je pense que vous ne serez pas déçus. Par contre, si vous aimez les BD sérieuses et que vous allez chercher tous les trucs qui collent pas, y allez pas, c'est pas pour vous, clairement pas. Donc allez-y, c'est Phase Finale, c'est Del Diablo et Body, c'est chez publié aux éditions Le Lombard, et c'est le tome 1 d'Esmodus Sapiens. Bon allez. Parce que je sens que je vous ai un petit peu perdu, on va revenir vers quelque chose d'un peu plus classique. Non, pas Die Hard, pas des films comme ça. Plus classique, des ouvrages classiques. Et je dirais même plus, des classiques en manga. Alors tout le monde va me dire, si je cite le Comte de Monte Cristo, ah oui, le film avec Pierre Niney. Je crois que c'est ça, d'ailleurs. Ben non, moi je vous parle du manga. Publié chez Nobinobi, qui s'appelle Le Comte de Monte Cristo, d'après Alexandre Dumas. Alors, je vous fais une chronique par intérim, parce que c'est pas moi qui l'ai lu. J'ai pas le temps de tout lire, et puis là, on est sur des pavés qui sont quand même un petit peu imposants. Donc, je l'ai fait lire à mon épouse, qui, elle, est un peu plus pointue que moi sur des classiques littéraires. Et du coup, elle s'est dit, tiens, pourquoi pas lire Le Comte de Monte Cristo en manga? Eh ben son avis est assez simple, ça marche très bien, parce que ils ont su retranscrire l'essence du roman en manga, que graphiquement ça colle, ils ont fait des coupures là où il y en avait besoin, ils ont retravaillé les textes pour que ça colle à du manga, et il n'y a pas de longueur, ça marche bien, on se prend au jeu en fait. Et du coup, si vous avez jamais lu Le Comte de Monte Cristo et que vous voulez peut-être vous faire une petite mise à jour avant d'aller voir Pierre Niney, ben lisez Le Comte de Monte Cristo en manga. Et peut-être que ça vous donnera envie, peut-être pas forcément d'aller voir le film, mais au moins de lire le roman d'Alexandre Dumas. Ça reste quand même un classique qui a déjà été multi-adapté et qui est vraiment génial. Ah, c'est une histoire de vengeance, je pense que vous avez... dès que vous voyez des films où il y a une vengeance, imaginez qu'on est forcément passé à un moment par Le Comte de Monte Cristo pour arriver à ce que vous voulez. Hein. Taken, avec Liam Neeson, c'est rien à côté du Comte de Monte Cristo. Hein. C'est un petit joueur à côté. Hein. Donc, n'hésitez pas à lire Le Comte de Monte Cristo, c'est trop bien. Il y a un petit truc en plus que je trouve cool à la fin, c'est qu'on a rajouté le guide des relations entre les personnages. Donc, à un moment, si vous êtes perdu, vous dites « Attends, c'était qui, lui ?» Ben, vous pouvez vous y référer et voir quels sont ses liens de connexion avec les autres personnages. C'est tout bête, hein, mais ça marche. Et du coup, c'est les bouquins en plus de cette collection-là. Donc, il y a plein d'ouvrages hein, dans les classiques en manga. Là, si je prends la page qui les présente, on a Les Misérables, Othello, Les Trois Mousquetaires, Frankenstein, Raison et Sentiment. On a Le Magicien d'Oz. On a Les Enquêtes de Sherlock Holmes. Ça, c'est cool aussi si vous avez des enfants. Les Enquêtes de Sherlock Holmes, ça passe très très bien en manga. Donc, c'est des ouvrages qui sont sympas, qui sont graphiquement cool, puisqu'on a souvent la même reprise façon livre ancien avec des petits enluminures, je sais pas si ça s'appelle les enluminures, mais dans les angles. On a souvent un petit signet tissu, ça fait des beaux ouvrages qui sont plutôt classiques, qui donnent l'aspect d'avoir un livre classique, mais avec ce petit twist d'être un manga. Donc, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Donc, je vous redonne les références, parce que c'est d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas, ça vous l'auriez bien compris. Le dessin, c'est de Nokman Poon, et la datation a été faite par Crystal S. Chan. Et c'est aux éditions Nobinobi. Donc, c'est vraiment trop bien. Qu'est-ce que je peux faire? Je me disais, tiens, je vais faire une petite dernière pause musicale, mais peut-être pas forcément. Hein, donc on va peut-être pas faire forcément de toute petite pause musicale. Allez, si. Une micro-pause avec Make It Alright, le dernier de The Offspring. Je le mettrai pas en entier, mais c'est juste histoire de le temps de reprendre mon souffle. Allez, Make It Alright de The Offspring sur le 101.5 de Radio G.
All I want to do is to fly away with you.
Make It Alright, The Offspring, ça ne nous rajeunit pas sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours à l'écoute de la case de Seb. On va finir avec un petit peu de manga. On va voir en fonction du temps que j'ai. Je voulais commencer avec Gokurakugai de Pika Edition. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont eu l'occasion de voir les déballages du service de presse, qui était plutôt cool. Ils ont eu aussi l'occasion d'avoir une mini-critique sur Instagram. Du coup, je vous en fais une à la radio, hein, tant qu'à faire, parce que il faut vous abonner à la page Instagram. Donc, qu'est-ce que c'est que Gokurakugai ? Non, c'est pas un monstre. Non, ce n'est pas le nom du personnage principal. Non, ce n'est pas ce que vous pensez, à moins que vous ne pensiez que c'est le nom du quartier dans lequel se déroule l'action. Gokurakugai, c'est donc un quartier. Et dans ce quartier, on a un bureau des résolutions qui est tenu par Tao et Alma. Et dans ce bureau des résolutions, Tao et Alma, donc Tao est un jeune garçon qui a l'air complètement insouciant, et Alma, une jeune femme peut-être un petit peu trop sérieuse et un petit peu trop portée sur la monnaie. Eh bien, ces personnages-là, quand tu viens les voir au bureau des résolutions, tu peux leur demander quelque chose, et comme des détectives, ils vont mettre en place ce qu'il faut pour accéder à ta requête. Et moyennant en rémunération, bien sûr. Mais, quand vient le soir, ou quand vient certains moments, ils endossent une autre casquette, une autre façon d'être, puisqu'ils vont lutter contre des créatures qui hantent le quartier. Alors, hantent, c'est pas tout à fait le terme, puisque c'est pas des fantômes, mais ce sont des créatures qui sont... mi-humaine, mi-cadavre, mi-animal. C'est un petit peu bizarre, mais les deux personnages vont pouvoir lutter à armes égales, oui, à armes égales face à ces créatures qui ont tendance à vouloir boulotter des humains. Pourquoi à armes égales? Eh bien parce que Tao est un hybride mi-humain, mi-cette créature dont j'ai bouffé le nom. C'est dommage, c'est un peu le... Bref, c'est pas grave. Il est mi-humain, mi-ces bestioles-là. Et quand Alma dit Kai, alors pas Bankai, mais Kai, Tao peut sortir de son corps une lame qui va lui permettre de combattre. Alma, de son côté, utilise un pistolet dont les balles sont remplies du sang de Tao. Et ils vont lutter contre ces créatures-là. Mais ils ont peut-être d'autres objectifs, notamment Alma, qui semble rechercher une personne en particulier. Et même si, dans Gokurakugai, Tao et Alma sont les personnages principaux, on a bien un quartier qui est vivant. On a des boutiques, on a des personnages, on a plein de choses, plein de lieux qui se dessinent au fur et à mesure et qui rendent l'ouvrage très vivant, très agréable à parcourir parce qu'on a vraiment l'impression de parcourir un quartier et de voir souvent des personnes connues dans ce quartier. Donc, c'est plutôt cool parce que, excusez-moi, un petit flottement. Parce que les personnages sont très sympas, très caractérisés. Il y a ce côté shonen, ça rappellera forcément des mangas comme Bleach, avec le côté Kai et la lame qui sortent. Il y a un côté peut-être un peu Naruto, avec les combats de lames rapprochées. C'est très propre, c'est très efficace, ça marche très bien. Le dessin, il est plutôt cool. Le chara-design des personnages, il est assez stylé. On a ce personnage. Enfin, il y a des trucs à découvrir parce que je pense que le quartier va nous raconter plus de choses parce qu'il y a plein de personnages vraiment particuliers puisque le bureau des résolutions n'est pas le seul à lutter contre ces créatures. Il y a d'autres choses autour, mais je vais pas vous les raconter, je vais pas vous les spoiler, ce serait un petit peu dommage, mais c'est vraiment sympa, graphiquement c'est cool, il y a plein d'actions, c'est vraiment une petite pépite shonen qui marche vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à y aller, allez visiter Gokurakugai, et si vous allez au bureau des résolutions, vous dites que vous venez de ma part, vous aurez pas de réduc, parce que Tao, elle fait pas de réduc, Alma, pardon, elle fait pas de réduc, mais au moins vous passerez un bon moment, vous serez bien accueillis. Bon allez, je vous redonne les références, c'est Gokurakugai, c'est de Yuto Sano, et c'est publié aux éditions Pika. That's all, folks. Et oui, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. On va se faire un bref récapitulatif de tout ce dont on a parlé, de ce dont j'ai parlé tout seul, parce que du coup, voilà. Mais j'espère que ça n'a pas été chiant pour vous à suivre. Hein. Donc voilà, j'essaye de toujours pas faire des trucs chiants. N'hésitez pas à interagir dans le chat, vous abonner sur Instagram. N'hésitez pas non plus à vous pointer à la radio. Alors envoyez-moi d'abord un mail, lacaseseb@radioG@gmail.com. Mais vous pouvez assister à l'émission, vous pouvez venir proposer vos chroniques, parler des BD qui vous font kiffer, vibrer. C'est surtout ça que je veux, c'est que cette émission soit un moment d'échange entre des gens qui aiment des BD, des gens qui veulent en découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des thématiques préférées. Moi, je peux pas tout lire. Donc au contraire, plus on a de personnes, plus c'est cool. On a parlé du Comte de Monte Cristo, publié chez Nobinobi, adapté par Crystal S. Chan et dessiné par Nokman Poon. On a parlé de Phase Finale de El Diablo et Body, publié aux éditions de Le Lombard. On a parlé de Gokurakugai de Yuto Sano, publié chez Pika Edition. On a parlé de Rebis d'Irene Marchesini et Carlotta Di Cataldo, publié aux éditions du Lombard. On a parler de Virginie Greiner, de l'imprimerie du diable, de Virginie Greiner et Annabelle aux éditions Les Arènes BD. On a parlé du voyage d'Ourselune de O aux éditions Le Renard Doré, la collection Renard Doré chez Rue de Sèvres, et de Petit Dieu de Salvia, de Mathieu Salvia et Christelle, publié aux éditions d'Argo. Voilà, vous avez de belles lectures pour cet été. Et puis, je le dis pour la dernière fois cette saison, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent. Passez un bon été à tous.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.